Dynamique Radio. Dynamique Radio. Wow. Dynamique. La radio facile à écouter. Come on.
Dynamique Radio, bonjour à toutes et à tous. On est en direct dans l'After School. J'espère que la team ça va. On a l'immense plaisir de recevoir Stone qui est parmi nous. Oui.
Bonjour, bravo. Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour Stone, comment tu vas?
Je vais bien, merci, très bien.
Tu vas bien? Bah écoute, en tous les cas, t'es sous les feux de l'actualité actuellement,
oh, hein,
puisque tu t'es prononcé donc sur le montant de ta retraite chez Jordan Deluxe, hein, qu'on salue. Et oui, tu nous as dit que tu gagnais seulement 1000 euros par mois.
Un peu plus de 1000, mais pas beaucoup plus. Non.
Et en plus, t'es passé chez Hanouna,
oui.
Et là, on n'a pas compris, personne n'a compris, lui non plus,
moi je crois
pas, et toi non plus. Hein, voilà, en l'occurrence, on s'est même posé la question de savoir ce que tu faisais,
c'était,
hein, sur le plateau.
Que je me posais comme question aussi.
Et alors du coup, c'était quoi le...
Non, en fait, ils m'ont appelé pour me demander de participer à l'émission. Mais moi, je leur ai dit, attendez, je ne polémique pas. Hein, y a suffisamment de gens qui le font très bien, d'ailleurs, et avec justesse. Moi, j'ai dit ça, mais c'est tout, quoi. J'ai rien à dire de plus. Qu'est-ce que je vais polémiquer là-dessus?
Voilà, c'est une retraite à 1000 euros.
Voilà, c'est comme ça.
C'est quand même étonnant. Hein, quand on... Bon, après, je m'imagine qu'il n'y a pas que 1000 euros. Et en l'occurrence, tu l'as...
On fait encore des spectacles.
Ouais,
donc,
tu fais encore des spectacles.
Ah, bah,
tu as encore des dates. Donc, en fait,
bien
tu travailles toujours.
Voilà,
c'était peut-être ça qu'il aurait fallu
dire. C'est ça que je voulais rajouter. J'ai pas eu le temps.
Voilà, elle travaille toujours, Stone,
oui,
et
oui,
ça
oui.
Il faut le préciser, c'est l'info du jour. C'est l'info du
ça,
jour,
ouais.
On peut le dire. Voilà, c'est pas
c'est
un SOS.
C'est bien,
voilà,
c'est bien.
Rassurez-vous, c'est pas un SOS. Et c'est bien de travailler,
bien.
Michel,
ouais.
Qui est comédien, travaille toujours aussi.
Ouais, je continue.
Ouais.
Ouais.
Bah oui, bien sûr.
Ouais, je continue.
Alors, pour rappeler à nos auditeurs, hein, Stone, tu connais un succès immédiat aussi, hein, dans ta carrière. C'est dès le début, tu connais le succès.
Oui et non, pas vraiment.
Au bout de quelques années, on va dire.
Oui, au bout de quelques années, parce que les premiers disques qu'on enregistrait, c'était pas non plus des gros succès. On était contents de les faire,
les
ces
faire,
disques, hein, puisqu'il fallait en faire beaucoup à l'époque, et on en faisait 4 par an.
4 par an.
Avec 4 titres.
Ouais, mais on voit quand même, tu es quand même sur les Champs-Élysées,
oui.
Je sais pas, t'as quel âge quand t'es sur les Champs.
18 ans, ben, c'est ma maison de disques.
Campagne d'affichage, Polydor, mais une
Polydor, voilà, avait fait les choses.
Avec sur les Champs à 18 ans. Donc, voilà. Un truc quand même énorme. Et ça, ça crée de succès aussi.
Ça a contribué. Voilà,
ça a contribué,
c'est le mot.
Voilà, parce qu'on revient quand même, record de vente de disques, hein, 3 millions de 45 tours avec le titre L'Aventour, hein, ce titre.
Et ça, c'est bien des années plus tard.
C'est bien des années plus tard.
Ah oui, oui.
Combien de temps?
Ah ben, c'est 5 ans.
5
ans plus tard.
5 ans plus tard. Ouais. C'est beaucoup plus. Plus tard, hein, 5 ans.
Eh ben oui.
Dans une carte. Oui, c'est vrai, t'as mis un petit
non,
peu de
mais
temps
Annie,
à démarrer.
Elle a eu un gros avantage d'avoir un gros succès médiatique.
Oui, c'est vrai.
Qui fait que tous les médias de l'époque se sont emparés du personnage, ont trouvé ça super, etc., etc. Et elle a eu beaucoup de passages radio, de télé, etc. Ce qui lui a permis de, sans faire des grosses ventes de disques, d'exister. C'est-à-dire, elle vendait 30 ou 40 000 disques, 50 000 disques. Donc, c'était pas rien. Mais c'était pas non plus Johnny Hallyday mais ça existait. Et il aura fallu attendre 71.
Tu suivais déjà la carrière alors quoi.
Ah ben,
il connaît bien le sujet.
Comme tous les Français, on a tous suivi la carrière.
Ouais, c'est vrai. Michel.
Il y a quelques gens comme ça, même si on s'était pas intéressé, on était obligé de suivre.
Hein. Obligé
c'est pareil
de suivre.
Pour Johnny, Jacques Dutronc.
Et puis à l'époque, la musique, ça cartonnait. Parce que quand on parle de millions de titres vendus, enfin je sais pas, on parle de Chardin, il roulait en Ferrari, en Porsche, il avait plein de voitures, vous viviez dans 600 mètres carrés quand même dans
c'est
le 16e arrondissement, c'était une vie de ouf.
Oui, mais
une
ça a été assez rapide, assez bref quand même. Hein,
ah, il a tout bouffé rapidement.
Voilà, c'est ça, ça n'a pas duré.
Jeune
très
et fortuné
longtemps.
Quand même, c'est kiffant parce
non,
que
mais
mettez-vous, mettez-vous à la place de Stone, elle a 20 ans, tout lui arrive entre guillemets dans le bec. Hein, c'est pas une.
C'est vrai.
Mais
c'est
tout
vrai.
Arrive dans le bec, le succès, l'argent, les voitures, 600 mètres carrés dans le 16e, des maisons, les soirées, les gens qui te regardent, c'est un truc.
Un fils génial.
Un fils génial. Bah attends, on n'y est pas encore.
C'est pas le mien, hein.
Non, je sais. C'est le premier, c'est l'aîné, c'est le fils de Stone.
Notre Baptiste.
Baptiste, qu'on salue aussi, Baptiste qui est dans le métier un petit peu.
Oui,
toujours un peu dans le métier.
On va chanter ensemble d'ailleurs bientôt, le 31 mars.
Très bien.
Bah, il faut une pub, tiens, au connétable.
Au connétable.
Enfin, c'est lui.
Ils ont fait une belle émission de télé là qui est passée.
Oui, les 300 cœurs.
Les 300 cœurs où ils ont chanté Mandy dans Mandy, Baptiste et elle.
Tous les deux.
Ok, bah voilà, il reprend le rôle de papa.
Il reprend le rôle de papa.
C'est bien pour les gars là, elle est tournée aussi.
C'est pas mal.
Il te manquait quelqu'un.
On en parle,
très bien. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, tes premiers cachets, c'est quand même, ils vont à ta maman de ton côté. Hein. C'est ça, tu donnes de l'argent à ta maman pour qu'elle ouvre une boutique.
Oui, bah oui, je l'ai aidé, un petit peu. Bah, ma maman et mon papa sont divorcés, donc bien sûr, comme ma maman n'avait pas travaillé du tout de sa vie, elle avait rien, elle avait le droit de rien avoir.
Elle était chanteuse.
Elle a eu son heure de gloire. Tu dis des méchancetés sur ta maman qui a eu son heure de gloire dans l'opérette pendant la guerre.
Pendant la guerre.
Une très 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 belle gonzesse.
Ah, tu m'appelles la belle-mère déjà.
La belle-mère,
la mère en fille, c'est de la bombe.
Mario 2. Alors comment vous êtes rencontrés d'ailleurs tous les deux là, du coup?
Bon, on s'est rencontrés parce que Mario aussi faisait le chanteur un petit peu.
Il chantait, faisait.
Et puis nous, on se connaissait déjà d'avant parce que lui, il était chez Vogue à l'époque, moi j'étais chez Polydor. Et
c'était les concurrentes.
Voilà, mais les maisons de disques, il y avait toujours des soirées où on se croisait, on se rencontrait, on s'entendait très bien. Puis chez Vogue, il y avait une pléiade de vedettes, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, puis tous les autres. Les Charlots, etc. Antoine.
Et Johnny Hallyday
à ses débuts, oui.
C'est Jacques Wolfram.
Wolfson. Et Mario ayant fait une petite carrière, une grande carrière même chez Vogue, puisqu'il enregistrait beaucoup de disques de 45 tours là-bas, on se croisait à l'occasion, comme ça, quoi. Et puis un beau jour, il a fallu, Mario en plus, bien sûr, à évoluer dans sa carrière. Il a créé un groupe qui s'appelait la troupe Attention, avec qui Nicole Rieux, qui était la chanteuse du groupe, ils ont fait un très joli succès avec Je suis. Et quand il a fallu envisager de prendre une première partie pour nos tournées, parce que les tournées étaient très importantes à l'époque, on faisait 4 tournées dans l'année, quoi. Puis des tournées de 2 mois ou 3 mois, bon. Et on avait une première partie très importante, primordiale. C'était ça. Et à l'époque, Fugain cartonnait avec le Big Bazar. Moi, j'adorais ça. Et je les trouvais formidables. Et Mario avait créé cette troupe Attention. Ils étaient 8.
Tu l'as intégré.
Et en fait, c'était tout à fait dans l'esprit du Big Bazar. Ça chantait, ça dansait, c'était très coloré. Et j'ai trouvé formidable qu'ils puissent nous accompagner sur scène, qu'ils puissent faire nos chœurs.
Le rapprochement s'est fait au fur et à mesure.
Et Mario était dans la troupe.
Il y a un truc qui est rigolo, c'est que... c'est marrant. Annie, elle a l'idée comme ça en voyant la Fugain et toute la bande en me disant c'est formidable, c'est ce qu'il nous faut sur scène, c'est bien avec nos chansons, Madi Normandie, les allumettes, tout ça, c'est joyeux, les chansons d'amour, l'aventure. Et les voilà donc décidant de Charles Tallard, il apprend qu'il y a un groupe qui cartonne en ce moment, ça s'appelle Les Enfants de Dieu.
Ah oui, au départ, oui.
Et ils sont 60.
Et ouais,
alors, rendez-vous est pris.
C'est beaucoup quand même. Hein.
Et là, Charles, il voit 60 personnes nourries, logées, transportées et payées. Ça commence à faire une belle rente.
Charles Tallard,
le producteur.
Qui était votre producteur aussi, on peut le préciser, votre homme d'affaires.
Compte tenu que Charles Tallard était producteur en même temps de Stone & Chardin et de Mike Brandt.
Oui.
Et qui vendait d'un côté 60 000 disques par jour, de l'autre côté 50 000.
Il y avait Régis Tallard aussi.
Oui Régis,
bien sûr.
C'était le frère de Charles Tallard.
Non, c'est pas le frère.
C'est un cousin.
Ils sont du même, ils sont d'origine juive tunisienne tous les deux, c'est et ça. Du même endroit.
Qui s'occupait aussi de
Michel
Sardou, non?
C'est Michel Sardou.
Michel Sardou, les disques Tréma.
Et Jacques Revaux.
Les disques Tréma.
Les disques Tréma.
Et donc, on se retrouve avec cette joyeuse troupe de 50-60 ans qui se jette sur Régret et Annie en disant Dieu te regarde,
ah
Jésus
oui,
est là.
Très catholique.
C'est un peu flippant.
Eric, il a flippé à grand air. Il a dit j'ai jeté 3 dans le Rhône en tournée. Non, non. Moi cette bande de cinglés qui restait-il le groupe Attention là on est 8
et évidemment c'était 8 jours avant de partir en tournée
8 jours
et entre temps Charles me dit alors voilà vous aurez 100 balles chacun. J'ai dit comment tu veux qu'on vive avec 100 balles chacun? Bon allez 150.
Ouais Charles qui était votre producteur. Un mot sur Charles parce qu'il n'y avait pas de contrat avec lui hein. C'est-à-dire quand vous commencez c'était vraiment une parole d'homme, parole de
et moi j'ai toujours personnellement adoré Charles Tallard.
Ouais.
On a aussi bien dit que moi d'ailleurs, on a toujours eu d'excellents rapports. Eric a été en guerre pendant des années avec lui.
Oui, toi t'es allé chercher quand même l'argent à un moment donné.
Non, mais à un moment donné,
fallait appeler quand même. Quand il y a les compiles qui passent et qu'il n'y a pas de droit qui tombe.
Je vois Marc, mon copain Marc Lombroso qui me dit on va se rendre compile. J'organise la sortie de la compile avec Charles Tallard qui voulait rien de parler de son Chardin à cause
d'Eric.
Donc je n'y touche plus. Finalement, j'arrive à le convaincre, on sort le disque, on en vend 25 000, l'année suivante, on en vend 30 000, l'année suivante, on en vend 25 000. Et j'ai dit, au bout d'un moment,
c'est bon.
J'appelle Charles Dallard et
on va voir un peu.
Tu parles de Marc Lambroso, il faut savoir aussi, cher auditeur, Marc Lambroso, il est parti à Londres et il a produit Take That avec la star qu'on connaît tous maintenant et toutes, qui était le parrain de la Starac, qui était Robbie Williams.
Mais Marc, il a une carrière exceptionnelle.
Et en plus, il s'est occupé d'autres personnes, mais c'est pour la petite anecdote.
Il a créé sa marque de maison de disques qui s'appelait Remark, dans laquelle il y avait Vanessa Paradis.
Oui, il y avait les Français aussi, mais pas.
C'est lui qui l'a découvert et qui l'a lancé. Il y avait Poho.
Ah ouais, le groupe Poho. Et il était
Et il était producteur et éditeur de Jean-Jacques Goldman pendant 15 ans.
Oh, ça va. Ok.
C'est pas mal.
Donc c'est pas mal.
Question carton. Ensuite, après Goldman, il a produit notre ami Raphaël.
Raphaël, ok,
il a fait
dernièrement.
Notre-Dame de Paris.
Énorme. Il est encore dans le métier. Voilà, c'était à la mode les duos d'ailleurs à l'époque. Hein. Il faut Stone et Charlène, vous avez.
Absolument pas.
Vous avez fait la mode.
On a fait la mode, voilà. Eric en était
C'était
très
une réputation, ça ne marchait pas. Les duos en France ne marchent pas. Non.
Après, on se rappelle de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, de Sheila et Mike Brandt,
mais c'est après nous.
C'était le premier duo, on peut le préciser, en musique française.
C'était la discussion, je me rappelle de ça avec Hugo Frey, qui disait, c'est bizarre, les duos en France, autant en Amérique, ça peut marcher.
Bah,
il y avait Sonny Hinchcliffe, Carpenters, Ike, Tina Turner, il y avait des duos qui marchaient.
En France, ça marchait pas. Donc, ça a contribué aussi de lancer un duo, c'était important même pour les producteurs.
Eric voulait pas du tout faire des duos, évidemment, il dit, ça marche.
Non, il a jamais voulu. On a senti qu'il acceptait jamais ta présence C'est là qu'il faisait du fric, hein, on peut le dire, grâce à toi.
Ça marchait.
Mais derrière, il avait besoin de toi, il a eu régulièrement besoin de toi, même par la suite,
pour
récupérer le fric qu'il avait perdu dans les voitures, notamment.
Oui, entre autres, mais c'est pas que ça seulement.
À un moment donné, il se rêvait un peu de Johnny Hallyday, il l'a pas aidé.
Ah, il se rêvait totalement, je dirais même pas de Johnny Hallyday.
Elvis Presley, carrément.
Paul McCartney,
tant
qu'à faire.
Ou Stevie Wonder.
Voilà. Pas Brian Jones ou.
Pourquoi pas.
Brian Jones, les Rolling Stones, Brian Jones, c'est un peu pour ça aussi que tu t'appelles Stone.
Ah oui, c'est vrai.
C'est en hommage à Brian Jones qui était au début des Rolling Stones. Hein. C'est pas celui que vous avez connu plus.
Le premier guitariste.
On l'a retrouvé dans une piscine. Hein,
Il s'est noyé
dans une piscine.
Ouais.
Brian Jones.
Oui. Ouais. Ouais. Et il était à l'époque avec la fiancée de Keith Richards, qui va être la mère de son enfant.
Keith Richards, les Rolling Stones qui sont encore.
Ils pètent le feu.
Ray Jagger.
En principe, d'après ce que j'ai cru savoir, par concert, chacun touche, je crois, 7 millions d'euros.
C'est
d'accord.
Pas mal.
D'accord, ok, oui. Donc ça paye quelques traites.
Ça motive.
Oui, ça motive.
Et en plus, c'est génial.
Je crois que même, c'est même pas une motivation.
C'est le plaisir d'être
tellement riche.
Tu chantes, il y a 500 000 personnes des fois qui chantent à tue-tête tes chansons que tu as écrites, c'est une merveille absolue.
Oui, parce que c'est plus dans l'endroit d'auteur.
Avec un répertoire aussi.
Moi, je vois avec notre très, 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 très modeste échelle, quand on fait les galas avec Annie, et que tu as toute la salle chante encore nos petites chansonnettes, c'est quand même génial.
C'est déjà génial, ne serait-ce que quand tu chantes devant 1000 personnes, c'est déjà génial. Et il faut le préciser aussi, Stone et Charlène, c'est plus de 20 millions d'albums vendus.
De 45 tours.
D'ailleurs,
c'est très gros différent.
C'est 45 d'ailleurs, tu peux expliquer peut-être ce que c'est un 45 tours pour nos auditeurs.
Tout le monde
auditeurs.
Sait quand même.
Oui, mais maintenant on parle de single.
Un peu désuet.
45 tours. Il y a combien de titres par exemple?
Dans les années 50.
C'est une petite galette, c'est ça, on peut le préciser.
45 tours, parce que le disque fait 45 tours minutes. L'autre fait 78 tours minutes.
D'accord.
Et le 33 tours fait 33 tours minutes.
Donc ça va plus vite.
Ça va de plus en plus lentement. Mais c'est de plus en plus grand.
D'accord, ok.
Donc, on a.
Tu peux mettre de chansons sur un 45 tours.
Sur un 45 tours, on mettait 4 chansons.
4 chansons. Donc, il y avait 4 chansons sur un 45 tours.
Il n'y en avait plus que 2.
Mais déjà, 20 millions de 45 tours, c'est énorme.
Non, grosso modo, sur les Chardennes, c'est 16 millions de 45 tours et 4 millions d'albums.
Oui, en gros, c'est ça.
Ouais, ça fait 20 millions. 16 plus 4,
c'est quand même pas mal.
Voilà, donc 16 millions de 45 tours, tu disais. 4 millions d'albums. Voilà, c'est énorme.
Ça serait pas. C'est en vente continue à la fin en 98, donc on est quand même
1998,
on est quand même presque 30 ans après l'Aventura, quoi.
Ouais,
c'est ça. On ressort une compilation que je produis avec Charles Tallard,
ouais,
Et on en refait 250 000.
D'accord. Ouais. 250 000 ventes plus. Ventes. Donc ça relance, c'est jamais terminé.
Tu fais des DVD. Des DVD aussi, oui.
Ah, ça se vend aussi. DVD, ouais. Surtout à l'époque. Allez, ce que je vous propose, c'est de faire une pause musicale. On s'écoute un petit medley. Hein, l'aventure. Et Madine Normandie. Puis on revient dans quelques instants. On est avec Stone et Mario Dalba, du coup.
Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. J'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. On m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai racontée. J'ai toujours gardé
les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais du Normandie, une mare avec des canards, les pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux, mais du Normandie, les semets du Normandie, les pommets du Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour est du Normandie. Oh oui, les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour est du Normandie.
Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Allez, de retour dans l'After School avec Stone qui est parmi nous.
Bravo.
Stone qui est sous les feux de l'actualité là par rapport à la retraite. Et oui, à la retraite actuellement. Il y a beaucoup de gens qui manifestent dans la rue pour leur retraite. Ils pensent déjà à leur retraite. Et oui, et c'est bah, quelque part. Voilà, donc elle s'est prononcée. Elle a dit « Je gagne 1000 euros par mois seulement ». Et du coup, bah, tout le monde s'est interrogé quand même. Et je pense que dans le monde du spectacle, il y avait beaucoup aussi, il faut le dire, hein, il y avait beaucoup de blagues à l'époque. Hein, il y avait bien beaucoup... Je crois que d'ailleurs Mario est un peu dans quelque chose pour ta retraite finalement, parce que c'est peut-être avec lui que t'as commencé à avoir une comptabilité, à payer tes cachets, parce que bah, je crois savoir que le monsieur il sait compter aussi.
Voilà, et... mais Mario aussi, c'est ce qu'on disait, on a passé 10 ans, aussi bien lui
même
que
plus
moi,
que ça.
Même plus que ça, okay. Où on était complètement détachés de tout ça, on savait même pas de quoi on parlait.
On était limite
imbécile quoi.
Ouais, jour le jour, c'était pas ton problème.
C'était pas mon problème, voilà, c'est ça. C'était... Alors bon, bah voilà, il y a des trucs qui déclaraient, d'autres pas déclaraient.
C'est pas seulement ça.
Et il a fallu attendre la trentaine pour se dire bon, bah là maintenant il va falloir quand
même. On pense quand même à.
Il va falloir gérer quoi.
Non, voilà, il y a une chose de fond, c'est que c'était pas obligatoire, c'était la réglementation permettait.
Permettait avant, du cash, quoi.
Oui. Avant, ouais. Pas du c'est pas une question de cash ou de
cash.
Chèque ou de cash, etc. Avant, tu n'étais pas obligé de faire une fiche de salaire sur un cachet.
Ouais, ok.
On avait un cachet, je dis n'importe quoi, ouais. 1000 euros de cachet, tiens, ouais. 1000 balles. Là-dessus, tu payais. La cotisation sociale, c'était 55 euros.
Ouais.
Sur les 1000 balles.
Ouais.
Et c'est tout. Et tu touchais tes 950.
Voilà,
il n'y avait pas, donc,
c'est
pas de cotisation.
Ouais, donc, en fait, c'est pas.
Pas de cotisation salariale.
Il n'y avait pas trop de retenue.
Il n'y avait pas, non, de...
Il y avait pas de retenue.
Il n'y avait aucune retenue, mais donc, en même temps, tu cotises pas.
Tu cotises pas,
c'était,
du coup.
C'était que c'était nous, tout. Quand les cotisations sont devenues, les salaires sont devenus obligatoires dans le métier.
C'était plus important, la cotisation.
Donc, on peut
dire que moi, pendant grosso modo, du 17 à 30 ans, et Annie pareil, on n'avait pas de.
Voilà. Oui, Julien.
Donc on peut dire qu'à l'époque les cachets étaient cachés.
Oh, ça c'est joli. C'est
quel talent.
Quel talent.
Donc à partir du moment où tu as,
c'est le système, en fait,
on s'est retrouvés en jouer Mes Flowers tous les deux. Et à la fin de l'année,
Mes Flowers, on peut le préciser, c'est une sorte de comédie.
Et on avait des cachets. Et parce que là, c'était normal, on était au théâtre. Et à la fin de l'année, moi j'ai vu arriver des cachets et on nous a appris un truc incroyable. Il y a un truc qui s'appelle des congés spectacles.
Oui.
Ouais. Ah bon, c'est quoi? Eh ben, tu as droit aux vacances comme les employés.
Et ouais. Et
ah
donc
bon,
vous étiez content de partir en vacances, je crois, après la comédie musicale. Ouais, vous avez passé quelques mois sur les côtes.
Hein. Ah non, on est parti à Megève.
À Megève. Ouais. Ah bah non, c'est pas là. Ah bah Megève, c'est encore mieux.
Ouais. On est parti à Megève. On a fermé le théâtre au bout d'un an et demi. De la pièce au mois de décembre, on
à
est parti janvier, février, mars, avril et mai, direction Megève.
Oh là là, sympa. Mais vous bossiez un peu pendant les congés?
Ah non, pas du tout.
Vous kiffiez?
Ah oui, il bossait.
Non, non, moi je montais
les papiers.
Je bossais quand même. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait nos deux cachets.
Bah voilà. Ouais. Donc on était comme des coques en pâte.
Donc et on avait nos deux cachets qui tombaient, c'était
sans rien faire en fait.
Un miracle, quoi, tu
le,
vois.
Le chômage, ce qu'on appelle le
mais
chômage.
Mais le problème, c'est que ça a commencé quand on avait 30 ans.
Voilà.
C'était ridicule, nos retraites. Mais la plupart de nos camarades.
C'est pareil, hein.
Heureusement. Et...
Oui, c'est ça, c'est pas que
même,
vous,
y a
c'était
même,
c'est générationnel.
Gérard Jugnot qui a embrayé avec
sur ça
sa retraite. Alors pourtant, Gérard Jugnot, c'est une star.
Ouais.
Alors, on pense qu'il
le
a
le cinéma, les bronzés. Et
ben, il se plaint qu'il a pas beaucoup de retraite. C'est curieux, hein.
Bah oui, comme quoi.
Oui. On peut voir ça avec des... Mais même pour nous, tu vois, je veux dire, d'autres lignes de la tête disant c'est un petit peu exagéré de se plaindre, tout ça. Ouais. Même pour nous, on n'a pas vraiment, nous, à se plaindre.
Non, c'est
non,
ce que
parce
disais,
que tu précisais aussi bien, chez Jordan, d'ailleurs.
Oui.
Vous avez des demeures, des appartements.
On a le bien,
et
on a
vous
eu la
travaillez
chance.
Encore. Ça,
on
vous le dites
encore.
Chez nous, mais vous travaillez encore et vous allez travailler encore pendant quelques années.
Moi, j'ai eu la chance d'écrire 4-5 tubes qui ont fait du ça, qui ont fait des droits d'auteur, de la retraite de la SACEM, des conditions.
Parce que les droits d'auteur, c'est alors il y a retraite et droit d'auteur.
Ah, c'est pas pareil.
C'est pas pareil, on est d'accord. OK.
C'est comme il y a la boulangerie et la mercerie. Deux magasins différents.
Voilà, c'est deux magasins différents.
Et les deux ont une recette.
Et les deux ont une recette.
Alors si tu as un peu de chance, la recette est quand même un peu consistante. Si tu as pas de chance,
elle est peu consistante. Alors Stone, on va oublier un peu la retraite, le cash, les chansons et on va parler de tes combats, hein,
oui.
Parce qu'il y en a plusieurs. Tu milites déjà pour la cause animale, il faut le savoir.
Oui, bien sûr, depuis très longtemps. Oui, oui.
Un mot là-dessus, par exemple.
Un mot là-dessus.
Pourquoi déjà?
Non, bah pourquoi? Parce que je suis une passionnée d'animaux et que toute ma vie j'ai eu des animaux, que ce soit avec mes parents ou après avec Eric. Eric était fou d'animaux aussi. En plus, je suis tombée sur Mario qui aime bien les bêtes. Alors ça tombait bien. Et puis donc,
si tu veux draguer la blonde, là, il vaut mieux aimer les bêtes. Hein. Si tu n'aimes pas les bêtes, elle met alors tu commences à dégager.
En fait, il a fait semblant d'aimer les bêtes.
Hein. Moi, j'ai envie de chier. Au revoir, monsieur. Jamais.
Non, c'est ça. Et c'est beaucoup. Moi, je suis très branchée sur les synchronicités et les rencontres. Sans qu'on le veuille spécialement, on croise des gens où on a les mêmes atomes crochus. Et puis, des amitiés se créent.
Toi, c'est la souffrance par rapport à revenir à cette cause animale.
J'ai rencontré
la souffrance des animaux
exactement,
lorsque.
Exactement. J'ai rencontré Stéphane Lamarre qui a une association très importante qui va passer en fondation d'ailleurs, qui est très impliquée sur le sort des animaux.
Ah,
Mario.
Et du coup, il est venu sur Hachetang, justement, on en parlait tout à l'heure, sur la tournée en 2007. Et en fait, nous a fait signer une pétition anti-corrida.
Okay.
Moi, je trouvais ça génial.
Ouais,
je suis profondément anti-corrida. Et donc, on a pris les choses en main, on a fait signer, on était très nombreux dans la tournée, hein, entre les techniciens, les musiciens et les chanteurs, et toute l'équipe. Hein. c'est tu as pris les choses en main et tu as fait signer tout le monde, même ceux qui étaient pour la corrida. Voilà.
Bon, j'ai pris le carnet du mec, j'ai dit attends. Et j'ai fait l'éloge de tout le monde.
Ouais, tout le monde. Tout allez, le monde. Tu signes.
On a
tu signes.
C'est 150, hein.
Alors, ce qui serait.
Les artistes, les musiciens, les techniciens, tout le monde, etc.
Vous n'avez pas le choix, quoi.
Et Topalov qui me dit. Oh mais moi j'aime bien moi la corrida, moi c'est bien là.
Bah, signe quand même.
J'aime bien, tu signes.
Tu bon, signes contre. Signe. Voilà, ça a démarré comme ça et avec Stéphane on s'est donc très bien entendu. Il m'a proposé d'intégrer donc l'association, de venir faire partie du conseil d'administration, etc.
Carrément.
Et puis oui, c'est la marraine. Et puis je suis la marraine et on a fait beaucoup de coups de opérations coup de poing comme on appelle, oh, yeah. Parce que dès qu'on signale à Stéphane des maltraitances animales, on va sur le terrain. On manque des fois de se faire écharper par des gens pas très sympathiques et qui n'en ont rien à faire que je m'appelle Stone.
Oui,
ou autre.
Bah là, du coup, là, ils voient plus Stone, là.
Voilà.
Et c'est là que quand tu vois arriver les gendarmes, tu es contente, hein.
Voilà.
Est-ce que, attention de pas prendre une balle perdue, quand même.
On sait jamais. On a fait beaucoup d'opérations en tout genre. Quand il faut, on y va, on va sur place, on se déplace en province pour différents cas. On a eu de tout, hein, ça soit des pigeons, c'est pas spécialement des chiens ou des chats, les pigeons, les oies, les quoi d'autre, quoi.
À pigeons à Paris, il y a des pigeonniers qui sont voilà. Installés
alors,
avant, on les tuait.
Voilà, c'est ça.
On les tuait.
On en vient à ça. Ouais. Monsieur Bertrand Delaneuve a fait bien les choses, il a mis des pigeonniers et on convainc les maires des villes qui se plaignent des pigeons de mettre des pigeonniers.
Un mot sur les vaches rebelles aussi.
Alors les vaches rebelles, alors bien sûr ça, les pauvres vaches, on a sauvé une vache, une pauvre vache qui s'est sauvée.
Des abattoirs, il y a des vaches qui sauvent des abattoirs.
Dans le camion avant qu'elle rentre, elle s'est sauvée.
C'est extraordinaire.
Incroyable.
Alors vous mangez pas de viande?
Non, là ça fait 40 ans qu'on mange pas de viande.
Nous sommes des vieux végétariens.
Ah oui, ça reste.
Alors vous êtes Eric Chardin, vous êtes végétarien, je suis végétatou.
Ouais, lui il aimait la viande. Lui,
oui, hein, il aimait bien.
Il mangeait le steak devant toi.
Ah oui. Bah, à l'époque, ça y est, on était encore. On trouvait ça normal de manger de la viande à tous les repas. Mais après,
même si toi, t'avais une mauvaise expérience, je crois, de la viande.
Ouais,
dès
mais
plus
moi,
jeune âge.
Oui, mais j'ai jamais aimé ça. Mais bon, c'était dans la. Voilà, dans les choses à faire, hein,
vous
normal.
Êtes, vous n'êtes pas végane.
Et puis, pas encore végane. Mais de temps en temps, ça vient, oui. Mais en fait, dès que après on s'est mis avec Mario, bah, on a décidé d'arrêter.
Bravo,
tout ça.
Hein, parce que ouais, c'est pas évident. Hein,
non, mais
quand on a.
Le secret, c'est Annie. Ouais. Le secret, c'est la cuisine.
Ah, bah oui, c'est elle qui
parce
cuisine.
Parce qu'elle te fait une cuisine végétarienne. C'est alors, une éclate totale.
Un plat éclatant.
Tous les jours.
Un plat à goûter.
Oh, il y en a pas.
Comment tu remplaces la viande?
Pâté aux pommes de terre salade.
Ouais.
Une pure merveille absolue.
Ouais, c'est tout simple.
T'oublies le poulet, t'oublies
tout.
Quoi.
Ouais. En fait, j'ai été au départ, j'ai acheté
la
le livre.
La tarbijonnaise à la moutarde.
On écoute Stone. Écoute Stone.
J'ai acheté le livre de Linda McCartney, qui a été une des premières. Végétarienne à dispenser
c'est une actrice,
son...
non?
Non, c'est la fille
tout, c'est
de Paul.
La femme de
la
Paul.
Femme,
ah, la femme, ah, oui, la femme de Paul McCartney.
Elle a mort d'un cancer, ouais. Évidemment, ouais. Malheureusement, ouais. Linda. Et en fait, elle avait créé un très beau livre qui était précurseur
bien,
parce que
bon.
On n'avait rien comme information à cette époque-là. Parce que ça remonte à plus de 40 ans, hein. Et grâce à elle, grâce à tous ses conseils, et voilà, j'ai commencé à faire ce genre de cuisine, et puis après, ça continue.
Ça continue.
Voilà.
Et oui. Les enfants, pareil.
Pareil, enfin, mes garçons, un peu moins.
C'est difficile, hein.
Un peu plus, mais bon, quand même, ça.
Non, c'est-à-dire que, il faut, moi, je sais pas, c'est bizarre, mais il faut attendre un certain temps.
Oui.
Dans l'âge. Pour commencer à
ouais,
se dire,
ce qu'on mange, c'est
peut-être
pas bon.
Peut-être que je vais faire un peu gaffe
pour
à ce que
santé.
Je bouffe parce que j'ai pris 10 kilos de trop, parce que j'ai, je suis pas bien, j'ai un machin, digestion un peu difficile, enfin, tu vois. Et arrivé à 40 ans, tu commences à
te poser. Ouais, tu poses quelques petites questions.
Et donc, tu te dis, il serait intéressant de.
Alors, il y a un truc aussi, c'est vous pratiquez le jeûne occasionnel.
Oui, bon,
une fois par an.
Une fois par an. C'est Ramadan en fait.
Pas systématiquement parce que là.
C'est quoi, c'est 30 jours, 40
dernière,
jours
on l'avait pas fait. Non, c'est une semaine.
C'est moins,
hein,
c'est une semaine. Non, ah oui, vous partez en stage yoga.
Oui, c'est ça.
C'est yoga et jeûne.
Non, c'est jeûne et randonnée.
C'est yoga.
Non, il y a pas de
c'est jeûne et randonnée. Jeûne et randonnée.
On a un randonneur dans la rando d'ailleurs.
Oui, mais c'est peut-être pas mal que tu fasses un peu de jeûne aussi, mon Gibraltar.
Enfin,
c'est valable pour moi aussi.
Il y a
énormément de gens.
Il y a une quarantaine de lieux en France.
De lieux qui sont tous magnifiques avec des gens.
Corse,
très compétent en la matière.
D'une beauté absolue. Ouais.
C'est très sympa. On se coupe de tout, en fait, de tout ce qui est notre vie classique. On fait vraiment la retraite, quoi. On se met une semaine au vert. Et là, bah, on, voilà.
Et vous faites ça une fois dans l'année.
Une fois dans l'année. Et puis on marche beaucoup.
Je vous conseille de faire ça printemps, été.
Ah bah oui, on
oui,
va faire ça
jour.
En plein hiver.
Oui,
évidemment.
Parce qu'il ne fait pas froid. Voilà, ouais. Tu ne manges pas, tu as froid. Okay. Tu manges normalement, tu lèves. Et ce qui est assez rigolo, c'est de voir le système. C'est-à-dire que tu fais une semaine dans laquelle tu ne consommes pas. Mmh. Tu ne consommes
oui,
pas.
Oui, donc quelque
donc,
part.
Donc tu n'achètes pas, tu ne vas pas faire les courses.
Non, il n'y a pas de courses, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien.
Et en même temps que ça, tu t'aperçois que c'est assez extraordinaire, tu arrives très, très bien au bout de 4-5 jours à passer le truc.
Ouais, mais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est un
et ça nous, on en est avec nous, on en est des gens, des viandards. Ouais. Moi j'ai emmené ma tata Coco de Corse, prof de gym, et mon tonton Florent, militaire de carrière.
Ah
chasseur.
Ouais, la viande, militaire de carrière, chasseur. Ah oui, chasseur.
Et il a fait une semaine de jeûne de tonton Florent, paix à son âme. Il me dit, Mario, ta combine, c'est de l'or en barre. Ah bon ? Écoute bien. J'ai croisé un ami dans la rue d'Ajaccio. Je croise un ami. Il me dit, oh Florent, tu es bien. J'ai dit oui, oui. Et j'ai vu l'œil de la jalousie. J'ai vu l'œil de la jalousie dans son regard.
C'est ça. Il a perdu 6 kilos.
6 kilos. Ah, il les a jamais repris. Ah bah c'est beau alors, bravo. Ah, voilà, vous pouvez... Si vous voulez plus d'infos sur
jeûne
et randonnée, on contacte Stone.
Le jeûne est une forme
de se soigner.
Qui est la forme la plus... qui peut paraître difficile, mais qui est finalement la plus douce et la plus efficace parce que, elle nettoie, elle élimine les porines, les purines, elle élimine les gras, et elle diminue, vous perdez du poids, vous perdez, et vous retrouvez des yeux, les cheveux un peu plus brillants, les ongles un peu plus durs,
oui, t'as raison,
la sexualité qui revient, et oui, c'est très important pour tout le monde, etc., etc., la qualité de sommeil, la pêche.
D'ailleurs, en parlant de sexualité, Mario, c'est un bon coup, hein, je crois savoir.
Pourquoi ?
Il t'a fait découvrir l'âme.
Hein ? Ah oui, oh ben ça, mais ça, ça fait partie de.
Parce que t'as eu une histoire donc avec Charlène pendant une dizaine d'années. Il y a eu un fils d'ailleurs, Baptiste.
Oui.
Mais Mario.
Non, mais c'est qu'on constate ça quand on parle avec les filles.
Moi, je précise. Hein. Paraît que c'est un bon coup.
Ouais. Non, c'était pas le cas.
Oui, comme quoi vous étiez fusionnel.
Une génération où c'était encore très timide. On parlait très peu de.
Majorité 21 ans.
C'est ça, de ces questions-là. Alors, on a été entre filles, ça parlait, mais on se rendait compte qu'on savait rien du tout. Quoi, qu'on était
et puis,
très,
un autre combat
nul.
Aussi, vite fait, entre parenthèses. T'as été très féministe aussi.
Oui, bah, moi, j'ai toujours voué une admiration.
Pour les grandes,
borne, pour
Simone Veil,
Gélalini, toutes les femmes qui ont fait avancer le
la cause.
Parce que c'était, je me rendais compte que c'est tellement exceptionnel à tout ce qu'elles ont pu endurer, mais c'est moi je suis en totale admiration pour ces femmes-là.
On s'en rend pas compte nous aujourd'hui, puisque finalement c'est un combat qui a été mené il y a quelques années. On n'était pas là.
Voilà.
On se rend compte que c'est super important. À l'époque, il n'y avait pas de préservatif ou très
c'est
peu.
Ça, c'est
et
ça.
Donc du coup, même les filles, vous calculiez de manière à pas avoir d'enfants.
Bien sûr.
Vous étiez en train de vous dire ah bah oui, mais c'était la période.
C'était
assez compliqué.
Il y avait évidemment des drames épouvantables.
Relativement évolué, mais imagine-toi ça.
Oh là là, avant.
Au siècle dernier.
Ah oui.
Ah oui, ouais.
Donc là, alors là,
puis même quand
la
tu...
méthode de Gino, c'est pas ce que ça veut dire. Ouais. Les antibiotiques, on connaît pas. Tout est à l'avenant. Hein.
Tout est à...
C'est comme ça.
Alors, un autre combat aussi, il y a le droit à mourir pour la dignité.
Oui, dans la dignité, oui. Alors, c'est pareil,
dans
une question de rencontre, comme toujours. Je rencontre Jean-Luc Romero à l'occasion, qui dirige... Enfin, maintenant, il n'est plus président, mais c'est tout comme. Et avec qui on est devenus très amis. Et Jean-Luc, vous, sa vie, on peut dire ça comme ça, à ce combat, voilà. Et il essaye par tous les moyens de faire appliquer une loi. D'ailleurs, il a rencontré récemment Monsieur Macron en compagnie de Lynn Renault, qui fait partie de l'association aussi, et qui, elle, étant très âgée, connaît, bah, évidemment,
oui,
c'est
le souhaite,
un sujet.
Hein, oui.
Voilà.
En
demandant que simplement qu'une loi passe, en disant que si la personne dans son état de vieillesse et de malade, souhaite mettre fin à ses jours, qu'elle puisse le faire sans aller en Suisse, en Luxembourg
ou
en Belgique.
D'après ce qu'on a compris, toi, tu veux, comme c'est pour l'instant, c'est pas établi
en
France, tu veux partir en Suisse.
Bah,
et donc,
j'espère que
mourir
d'ici,
dans la dignité,
voilà, d'ici que la loi sera passée, d'ici que je puisse m'en servir, disons, de la loi.
Ceci dit, ça a déjà pris une certaine brèche et un certain nombre de médecins.
C'était
notre ami Guy Bedos qui disait, moi j'ai mon médecin assassin
qui va
s'occuper de moi s'il y a besoin.
Bien sûr. Bah
donc il y a
on
une
est en pleine hypocrisie, quoi. On est dans la même situation que quand il y avait l'avortement et que les filles qui avaient des moyens partaient en Angleterre et puis les autres ils ont passé par des horreurs totales et voilà quoi, c'est le même genre de combat.
Autre combat aussi, la libéralisation du cannabis.
Bien sûr. Alors là, je comprends même pas pourquoi ils sont... Ils passent des
mais ça vient
et ça vaut une fortune pour eux.
Mais ça vient.
Qui courent après les petits dealers, mais c'est y a...
du temps perdu.
Du temps perdu.
J'ai assisté
ridicule.
À la télévision il n'y a pas longtemps, monsieur, qui est chargé par le gouvernement d'organiser maintenant avec l'État la libéralisation du cannabis.
Oui.
D'accord.
Parce que plus ils essayent de mettre le haut là, et plus il y en a. Et plus il y a de fumeurs.
Oui, oui.
Alors, bon,
la France est le premier consommateur
ça
d'Europe.
Ça pas de sens. Quoi, ça sert. Ça pas de sens.
On est les premiers consommateurs d'Europe de stupéfiants et de médicaments dans le genre.
Ah oui.
Donc, il y a un chiffre d'affaires, grosso modo.
Ouais, ça pourrait rapporter de l'argent à l'État.
Voilà.
À la collectivité. Qui, grosso modo, qui est.
Et pareil pour le reste.
Alors,
la cocaïne, alors, l'héroïne, les champignons.
Mais toutes les drogues. En fait, le problème, c'est exactement ce que tu dis, c'est toutes les drogues. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à toutes les drogues? Comment on fait par rapport à tous les alcools?
C'est ça.
Hein, que ce soit de la poire, que ce soit de la pêche.
Oui,
de la
finalement, prune, tu la pourrais avoir la possibilité de consommer des champignons hallucinogènes, mais des champignons qui sont correctement, entre guillemets, correctement fabriqués, avec une législation comme à Amsterdam, finalement, comme en Hollande.
C'est pas tout à fait pareil.
C'est pas pareil.
Non, c'est pas
en Hollande, tu consommes des champignons. Tu vas t'acheter des champignons
hallucinogènes. En Hollande, tu peux acheter tes trucs. Ça a un gros
avantage. Et le cannabis aussi.
C'est que ça...
C'est de qualité.
Ça fout en l'air tout le deal.
Oui, ça fout en l'air.
Alors, ce qui est drôle, c'est que
il y a un certain
nombre de responsables qui te disent « Ouais, mais si vous supprimez la drogue dans les quartiers chauds, ça va être l'émeute. »
Non, et puis ça va être la coke, ça va être l'héros, ça va
être... Il y a eu des exemples ailleurs où ça s'est très bien passé.
C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des pays où, comme le Portugal, où il y a 20 ans, ils ont légalisé la... L'herbe, le shit et tout ça en même temps, il n'y a jamais eu
d'autres,
du tout,
de trafic.
Si, il y a toujours du trafic. À partir du moment où un produit, quel qu'il soit, est illicite, et en même temps, il a du succès, et bien on consomme.
Ben oui, c'est ça. En fait, et puis d'ailleurs, il y a de nouvelles drogues maintenant.
Bah,
finalement,
sûr,
ça, c'est has-been. Même la cocaïne, c'est has-been. Quasiment, on arrive maintenant, ils trouvent des choses nouvelles et tout ça.
Il y a toujours eu un intérêt humain. Pour tout ce qui est défonce, depuis l'Antiquité,
à commencer par l'alcool.
Et nous, on sait que tous ces produits-là, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour plantonner. À partir de là, chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut, dans la mesure où ça ne regarde que lui.
Tout à fait.
Dernière chose aussi, avant la seconde pause musicale, tu crois aux fantômes et à l'au-delà.
Ah oui, mais c'est pas que je crois.
Et ça, c'est lié à ta famille,
on peut dire.
C'est une histoire familiale. Impressionnant.
Mais moi, j'ai constaté depuis très longtemps que dans ma famille, il y avait des sorcières, entre guillemets.
Bah oui.
Qui, ces pauvres femmes, mon arrière-grand-mère notamment, qui avait des visions, qui a émis, mais tout le monde l'a traité de folle, quoi. On l'écoutait même pas, cette pauvre femme.
Ouais, en plus, elle n'était pas obligatoirement lettrée ou quoi que ce soit.
Non, du tout.
Tu dis, c'est quoi cette folle,
campagne,
quoi.
Ouais. Et en fait,
Marion se le dit encore,
d'ailleurs. Elle a eu beaucoup de comme ça. Par exemple, elle a un fils qui est mort à la guerre de 14, et en pleine nuit, elle a hurlé en disant, ça y est, il vient de se faire tuer, je le sais.
Et c'était le cas.
Et c'était le cas. Et
le
lendemain. Il y a eu comme ça énormément. Mon grand-père qui est barreur de feu, par exemple.
Ma maman est barreur de feu.
Aussi, barreuse de feu, oui. Bah, j'ai la liste de tous les barreurs de feu
d'accord.
de France.
Moi, quand je me brûlais, elle me mettait la main, je sais pas, et je te promets, j'avais plus de brûlure.
Incroyable.
Et voilà.
Elle aurait pu en faire son métier, elle aurait peut-être dû
d'ailleurs. Bien sûr, et il y a beaucoup de gens. Maintenant, les hôpitaux recherchent ce genre-là. À Clermont-Ferrand, l'hôpital, ils prennent des barreurs de feu.
Comme quoi,
et puis ils prennent aussi, ils utilisent encore les sangsues.
Et il y a l'expérience de votre fille aussi par rapport à l'au-delà.
Ma maman, donc aussi, était très, déjà pas du tout croyante en rien et qui refusait, mais que ça lui tombait dessus à l'insu de son plein gré, comme on peut dire. Et puis après, ma fille, moi, il paraît que ça saute une génération, donc il y avait l'arrière-grand-mère.
C'était pas toi, quoi.
Non, c'était pas moi. Ma mère et ma fille. Et ma fille, moins maintenant parce qu'elle est plus âgée, mais à l'adolescence, c'est souvent là qu'on voit se développer des dons pour
J'ai eu l'occasion de découvrir cette histoire-là aussi. Elle travaillait dans un labo photo.
Oui, c'est
Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là?
Ah oui, ça c'était fou parce que c'était son premier boulot. Elle avait fait 2 ans de photographie. Elle avait trouvé un travail en banlieue dans un magasin de photos. À l'époque, c'était à l'ancienne. Hein. Maintenant, c'est plus. Maintenant, on accrochait par des pinces à linge les négatifs. Ouais. Et puis un beau jour, elle me dit, elle était très discrète et tout. Elle voulait pas, rien faire de spécial.
Ça lui foutait la trouille.
Ça lui foutait la trouille. Et un jour, elle me dit dans le magasin, je vois un mec. Elle me dit, mais un mec, un jeune homme. Et elle dit, j'osais pas le regarder, qui rigole, qui est là. Et puis, il me dit, je l'entends parler, quoi, mais dans ma tête, quoi. Et en disant, et une heure après, une dame rentre dans le magasin avec une pellicule à faire développer. Et c'était le fiston en question qui venait de tuer en scooter. La dame en larmes, évidemment. Et elle me dit, comment tu veux que je dise, je le vois, c'est pas possible. Et il dit, je connaissais pas. Et en regardant, quand en développant les photos, je dis, mais oui, c'est lui. Et il lui dit, voilà, il s'appelle Guillaume, il m'appelle Guillaume, je sais que tu peux m'entendre, je voudrais que tu dises à mes parents que j'ai eu un accident, mais maintenant tout va bien, je suis passé de l'autre côté, tout, qu'il ne s'inquiète pas, voilà. Mais elle me dit, j'ai pas, comment veux-tu que je dise ça aux parents? Alors, avec une grande lettre, très émouvante. Ouais. Bah, il l'a jetée à la poubelle, la bonne femme. Elle l'a pas cru une seconde.
Donc, il y a l'au-delà.
Alors, elle était déçue parce qu'elle dit, la mission de Guillaume n'a pas été, mais bon, elle me dit, là, ça a été. Et puis après, chez nous, elle m'a dit, souvent, on partait, elle était adolescente à l'époque, elle avait 16 ans. Elle me dit, je voyais des formes passer dans la chambre, mais de l'ancien temps, pas comme maintenant. C'est bizarre, quoi. Donc d'avoir ce don, quoi.
Elle aurait, oui, voilà, c'est ça.
C'est un don de médiumnité.
Elle a fait d'ailleurs elle a pris des cours, mais enfin de médiumnité. Mm-hmm. Enfin, disons, elle a un peu poussé le bouchon là-dedans.
Ouais. Et toi, t'as bien fait de pas que ça t'arrive pas ce que t'avais promis, ce que t'avais vu le médium, parce que tu devais mourir en 2015.
C'est flippant. 2015.
Non, mais à 70 ans.
À 70 ans, c'était ça l'idée.
C'est flippant, quoi.
Ouais, c'était flippant, mais bon, j'y croyais pas.
Ah ouais, rassure-moi, parce que j'y ai cru. Je me suis dit, ah oui, c'était sur la...
Ça m'a pas trop perturbé.
Ah ouais, ça t'a pas perturbé. T'as quand même dû attendre le 31 décembre. Tu t'es dit, ça y est, c'est le 1er janvier, c'est bon.
J'en suis sorti.
Un truc aussi que vous avez en commun, parce que Michel, toi, tu les as vus, c'est les ovnis.
Les ovnis, oui, nous aussi, on en a vu quelques ovnis, oui. Enfin, sur l'autoroute, on avait vu trois énormes boules, c'était quand même bizarre, quoi. Ah bah, les ovnis, moi, je suis une passionnée d'ovnis.
Et tu chasses les, t'es un peu chasseuse d'extraterrestres ou... Quelque chose comme ça, vas voir les crop circles, les
choses comme ça. Avec des îles,
moi, j'avais 13 ans et j'ai vu, j'étais dans une des propriétés de mon père.
Oui.
Ça, je m'en rappelle. Je m'embêtais un petit peu.
Bien sûr.
J'étais dans l'après-midi. Alors, mon père était parti avec d'autres amis à lui faire des courses dans la ville la plus proche.
D'accord.
Et donc, il y avait un ami à mon père qui était resté avec moi dans la propriété. Et donc, à un moment donné, c'était la période où il y avait les hippies.
Oui.
C'était en 68. Hein. Il y avait même des hippies dans le village et tout. Ils avaient loué une ferme en face d'une propriété de mon père. Mm-hmm. Donc, moi, j'étais intrigué.
Je commence à mieux comprendre comment tu as vu les extraterrestres, là.
Non, mais j'avais 13 ans. C'est grâce aux hippies que j'ai vu la soucoupe volante. C'est grâce à eux, en fait.
Oui, tu vois.
Alors, ils avaient loué une ferme en face de la propriété de mon père. Mmh. Moi, j'étais une quinzaine, enfin, entre 10 et plus de 10, une bonne dizaine. Donc, je les vois. Alors, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font et tout. Donc, je vais dans la remise de mon père. Il avait laissé une paire de jumelles qui était accrochée, ça, je le savais. Donc j'y vais, je vais la décrocher, je prends la paire de jumelles, puis bon, je commence à regarder, observer les hippies dans la ferme et tout. Je trouvais ça intriguant parce qu'à 13 ans, c'était un peu étrange tout ça.
C'est les grands.
C'est vrai, c'est les hippies, c'était un truc, c'était un phénomène quoi. Ouais.
Donc je regarde.
Alors je regarde tout ça, je regarde les hippies, tout ça, puis je regarde un peu l'herbe, la végétation, tout ça, les machins, tout ce qu'il y avait autour, quoi.
L'herbe des hippies, tu veux dire?
Non. j'étais assis, donc il y avait comme une clôture, quoi.
D'accord.
Un bois comme ça, j'étais assis comme ça, accoudé. Puis je regardais avec les jumelles, tout ça. Puis tout d'un coup, je regarde un peu, je monte un peu comme ça. Il y avait un arbre qui était en face de la propriété, un arbre assez pas très gros, quoi, assez long comme ça. Et il y avait des feuillages et tout. Et à aux trois quarts de l'arbre, je vois une masse sombre.
Ah oui.
Je dis, c'est pas possible. C'est un truc, c'est dingue ce truc-là. Un truc vert foncé, quoi. Ouais, mais à métal, quoi. Alors il y avait une lumière, qui clignotait orange et l'autre bleu, qui était fixe. J'ai dit, j'appelle le copain de mon père. J'ai dit, monsieur, venez voir, voir. J'ai dit, je lui passe les jumelles. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà vu ce truc-là? Il m'a dit non. Il avait mon âge. Il avait 60 et quelques années.
D'accord, quoi. C'est ça.
Il avait mon âge.
Maintenant.
Maintenant. Et, il a dit, mais j'ai jamais vu ça toute ma vie. Quoi.
C'est vrai, t'as assisté à des conférences.
Ah oui, j'ai eu des conférences. J'en ai même parlé. J'ai même parlé de mon histoire dans une conférence. Oui, j'ai pris la parole et j'ai expliqué.
Ouais, toi, t'as chassé, t'as vu des grands crop circles et tout ça. T'as pas terminé ?
Non, j'ai pas terminé.
Ah ouais, pardon.
Alors ensuite, t'as vu quoi ? La soucoupe. Oh, ben, la soucoupe, elle est restée un petit moment. C'est ça. J'ai vite appelé le monsieur pour qu'il voit.
Il a vu ?
Bon, il a vu ça. Et puis, à un moment donné, bon, elle est partie. Elle était en l'air, la soucoupe. Elle était déjà en l'air. Elle n'était pas au sol. Ouais, elle était déjà en l'air, derrière les feuillages.
Taille de la soucoupe, on était à quoi en...
À mon avis, si elle était habitée, s'il y avait quelqu'un dedans, ils n'étaient pas plus de deux. Hein.
Oui, d'accord. C'était...
C'est pas une grande. C'était pas un grand truc.
Il n'y a pas eu des traces par terre, par la suite?
Non, non. À moins que moi, quand je l'ai vu, ils étaient déjà... Ils s'étaient posés avant que je sois là. Avant que je sois là. Ils nous ont observé.
Pour conclure, Michel, par rapport à ce témoignage, c'est vrai que ça serait quand même...
C'est impressionnant, quoi.
Invraisemblable qu'on soit tout seul dans l'univers.
C'est vrai.
Voilà,
ça...
À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais vers la soucoupe. J'y vais pas. J'y vais pas.
C'était... Bah, à présent, c'est un peu intimidant, quand même.
Ouais, quand même du danger. Et quand je sais ce que je sais maintenant... je pense que j'ai eu raison de ne pas m'approcher.
Toi, c'est pareil, Stone, tu t'es renseigné, tu as lu beaucoup de livres autour de ça.
J'ai vu tous les films. Rencontre du troisième type, c'est quand même mon film préféré.
Et puis, il y a eu un film dans les années 60, La guerre des mondes.
La guerre des mondes, formidable.
La guerre des mondes.
Qui a été refaite après.
Ils ont fait un remake.
Qui était moins bien. Ouais. Et bref. Et du coup, moi, je lis même en ce moment tout ce qui est
surnaturel, paranormal.
Tout ça me passionne. Je trouve ça génial en même temps.
Très bien. Bah voilà. Du coup, on se fait une pause musicale. C'est Vita et Slimane sur Dynamique Radio. Bien. Et puis, on terminera cette interview parce que je vois qu'on a largement dépassé. L'heure. Comme quoi, on a des choses à dire. Hein. C'est beau. Ouais. On finira avec l'interview. Tac au tac.
Au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur, dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal.
Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien. Dis-le-moi encore, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi. Plus rien n'a de sens si tu n'as plus la foi. Plus rien n'a donné. Dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien. Dis-le-moi encore, ça va, ça vient, ça va, ça vient.
ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là, alors on n'est pas bien. On n'est pas bien là.
Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est okay. La radio pour tous.
Dynamique Radio, on est de retour dans l'After School, on reçoit Skol et Mario Dalba.
Alors, les extraterrestres sont en micro.
Eh ben oui, parce qu'on parlait des extraterrestres là, carrément, avec l'histoire de Michel. Voilà, qui nous a fait son témoignage hein, habituel ouais, finalement ouais, sur ouais. sa rencontre avec une soucoupe volante. Ouais. Je crois savoir que t'es sceptique un peu sur tout ce qui est paranormal et tout ça.
Quoi?
Tu me confirmes, t'es un peu sceptique par rapport à tout ça.
Personnellement, j'ai un peu plus de difficultés qu'Ami. Peu...
Ouais.
Voilà. Mais pourtant, on s'incline devant les témoignages.
Oui, oui, c'est vrai.
Non, mais en même temps,
c'est invraisemblable le nombre ouais. de témoignages qu'il y a.
C'est ça. Alors, il y a un très
c'est
beau
dans
livre
tous les pays,
que
hein, c'est
Leslie Kean, une Américaine, a écrit sur ce sujet, un gros pavé, où elle recense tout. Mais alors, c'est d'un précis fabuleux à lire.
Voilà.
Toutes les histoires d'extraterrestres dans le monde entier, il y a des choses mais invraisemblables,
c'est
très, très rigoureux, très sérieux. Ouais, oui.
Mmh. Allez, on passe au fameux tac au tac.
Ah, okay. Le tac au tac.
Voilà. Stone, tu n'as plus les 100 en grande toilette ?
Les 100 en grande
parce
toilette ?
Parce que tu les as eu, il fut un temps.
Fut un temps, fut un temps, il y a bien longtemps.
Il y a bien longtemps.
Non, non.
C'est quoi le prochain truc à refaire chez Stone ?
Ou alors là, j'ai pas du tout de projet dans ce sens-là.
D'accord.
Non, non.
Un conseil pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir recours à ce type de chirurgie ?
Alors, s'adresser à quelqu'un de compétent, hein, je pense que c'est comme dans tous les métiers, il y a des gens plus ou moins compétents en la matière. Alors, bien sûr, faire demander conseil auprès de gens qui connaissent voilà, les médecins compétents en question, parce que c'est jamais mieux que la personne qui est passée par là et qui te dit « vas-y, les yeux fermés, il n'y a pas de problème ».
Donc, allez voir voilà. les médecins avant oui. toute chirurgie esthétique, que
ah,
ça
toujours,
soit
toujours.
Pour et les bons médecins.
Toutes les parties du corps et les bons médecins.
Ouais, parce que actuellement, le bon système, c'est d'avoir, si on a la chance d'avoir un médecin de famille, par exemple,
oui,
c'est lui poser la
ça,
question avant.
Poser la question, de voir avec, de se renseigner,
bon
de
conseil,
s'informer ouais. sur deux choses, la pratique et les tarifs.
Voilà.
Ouais.
Voilà,
tu aimes toujours le lait aux fraises?
Le lait aux fraises, non, bah, je bois plus de lait déjà. C'est
ah oui.
Le végétal, il est végétal.
Oui, t'as raison. Tu chantes mieux que Mimi Mati quand même.
Ah oui, hein pareil.
Il
non,
avait
elle
été
chante...
méchant quand il avait
mais
dit
elle chante, très bien, Mimi. Très bien, Mimi, elle chante très très bien.
C'était les couillons d'Eric qui disaient.
C'était les blagounettes.
Que Annie, elle
les
chante plus mal que Nidhi. Que... En plus, il compare à quelqu'un qui chante très bien. Et qui
oui, mais Mimati chante bien. Et pas,
ouais, très bien. Dit. Et en plus, c'est une grosse géniale.
Mario, c'est le meilleur coup que t'as eu dans ta vie?
Bah, comme j'ai pas eu beaucoup d'expérience autre.
Tu vas dire oui.
Sans doute.
Michel Drucker, toujours à la télé en 2025.
Ah, bah, d'ailleurs, j'ai appris qu'il était
oui.
pas bien en ce moment, hein, parce
oui,
que.
Il a eu un problème.
J'avais été
il est
voir,
souffrant. Il est souffrant.
Il est souffrant.
Mais
j'avais
il sera
été
toujours
voir
à
son one-man show formidable et je comptais le revoir au théâtre Marigny. Mais
la
là,
semaine prochaine,
il...
on devait y aller.
Oui, on devait y aller la semaine prochaine.
Oui, il a remis quelques dates et quelques
voilà.
vivements
mais
dimanche.
Il était formidable.
Mais il sera de retour
son
prochainement,
son
c'était prévu, hein.
Non, oui, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a quand même.
Des complications.
Ça peut durer quelques mois.
En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on lui souhaite d'être toujours à la télé en 2025. Dimanche dorénavant sur France 3, mais on a
c'est
toujours
ça.
Un plaisir de regarder cette émission le dimanche.
Je suis
l'artiste
d'accord.
le plus sympa que tu aies rencontré.
Oh là là, alors là, je peux pas dire un artiste, j'en ai rencontré plein des
mais
sympas.
Quelqu'un qui t'a touché, quelqu'un que tu t'es dit, c'est quand même un mec sympa. Mmh. J'avais peut-être quelqu'un que t'admirais quand t'étais plus jeune, que
non,
t'as rencontré par la suite.
Non, je vois pas trop qui. J'en ai rencontré plein de copains. Bah, tous les chanteurs de notre génération. Il y avait C. Jérôme avec qui on était très copains.
Bah oui, il faisait vos premières parties.
Ouais.
Michel Jonas.
Michel
C.
Jonas
Jérôme.
Aussi, oui, bien sûr. Et puis bah les filles aussi. Charlotte Julien qui est devenue rester une grande copine. Et puis bon, puis les vieilles potes, Nicoletta, Michel Thor, c'est des filles sympas, tout ça.
Et le moins sympa ou la moins sympa?
Ah bah là, si je le dis, ça va faire encore. Hein.
Tu peux le dire.
La moins sympa. Ah, la moins sympa, c'est Sheila.
Sheila.
Oh là là, elle est pas sympa. Voilà. Du
allez.
Tout.
Demain sur mon rendez-vous.
Ouais, c'est ça.
Non mais
Sheila est pas sympa du
pour
tout.
Sheila, c'est pas grave parce qu'elle est très bonne sur scène.
Oui, d'accord. Ça c'est vrai.
Donc à partir du moment où le
vous rattrapez bien,
elle chante vachement bien, elle a la pêche, tout ça. Après dans la vie, elle est épouvantable, mais après avec nous
ah non,
en tout cas
hein,
peut-être qu'avec d'autres
oui c'est subjectif
mais je crois
toujours.
Qu'on a un certain nombre de gens à avoir constaté
à
l'épouvantable de notre ami national.
Ok. Qui tu aimes particulièrement dans la nouvelle génération?
Alors moi je suis malheureusement très nulle dans ce bah là ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'est formidable, j'adore. Et Slimane, je l'ai vu 2-3 fois, il est incroyable ce
et
gars.
Et c'est un duo aussi, on tient à préciser, c'est un peu finalement les Stone et Chardin de
voilà,
l'époque.
Voilà, mais tant mieux, tant mieux. Et puis voilà, et je découvre comme ça au fur et à mesure qu'on zappe et qu'on tombe sur j'ai vu Soprano aussi que je trouve formidable quoi, c'est des gens qui reprennent, je trouve qu'ils ont une relève.
Il y a quelques filles aussi.
Et puis quelques filles formidables. Moi, j'ai adoré plusieurs fois, bon, quand il y a déjà quelques années, mais Rose, par exemple, j'aimais beaucoup Rose. Okay. Zazie, je l'aime bien aussi.
Zazie.
Et puis après, bon, il y a toutes les nouvelles chanteuses
Adèle,
comme Juliette Armanet, tout ça, c'est des filles talentueuses. Ah oui, vraiment.
À quand le retour de la tournée Achetandre et Tête de Bois?
Oh, malheureusement, je crois pas qu'il y aura de retour, parce que d'abord, notre bon Michel Alguet est parti. Il a été,
c'est lui qui tenait
repris.
Le truc.
Ah, c'est lui qui tenait le truc. Il avait vendu le concept à Christophe de Chavannes. On a fait une tournée en 2018, qui a été très bien d'ailleurs, il n'y avait rien à dire. Mais bon, c'est vrai que ce sont des productions qui coûtent très très cher et qui impliquent faut vraiment avoir les reins solides, comme on dit.
Oui, parce que le producteur en question avait quand même sa maison, il l'avait mis...
Ah bon, au début, oui, il a fallu que...
Ouais, c'est des investissements tellement importants que...
C'est énorme.
Avec les producteurs, c'est des
histoires
d'amitié.
C'est Mario, en ayant produit Léo Ferré, il ne peut plus rien m'arriver.
Ouais, c'est à ce point-là.
Oui, c'est des histoires d'amitié. Alors, c'est plus
pareil.
Ou moins forte, mais comme pour les rencontres dans la vie, quoi. Et avec Michel, on s'est tout de suite bien entendu. On a passé des très bons moments ensemble.
On a fait l'ancienne, on a tapé dans la main.
Voilà, exactement.
Oui, voilà, ensuite,
j'ai jamais signé de contrat avec lui.
Non, et on s'est occupé.
On a tapé dans la main.
On s'est occupé de sa fille.
Et on a été.
Pendant
non-stop.
3 ans, on a fait nounou avec Charlotte.
Et quid d'achetant dans les têtes de bois, tu parlais de la reprise par Christophe de Chavannes, mais pas de...
Non, mais ça va pas perdurer.
Ça
je
perdurera
dire,
pas.
C'était
un coup
d'année.
Très, très bien. Ouais. Une question autour à l'équipe, là. Est-ce que vous pourriez me dire quel est le rapport de Stone avec François Hollande?
Ah oui. Ah,
l'équipe là c'est compliqué.
Là
c'est super compliqué. C'est la question. Vous n'avez pas la réponse.
La question piège.
Non parce que Stone elle a un rapport avec François Hollande mais
oui,
le
de loin.
De loin. Enfin de très loin
de
mais
très
quand même.
Loin.
Quand même. C'est en rapport avec son épouse.
Avec Julie. Donc.
Avec Julie.
Faut que je le dise peut-être.
Bah ouais je
sinon,
crois pas. Sinon mais
un lien familial peut-être.
Julie Gaillet.
Voilà alors quel est le lien entre Stone et Julie Gaillet?
Un lien familial peut-être.
Oui.
Familial non mais oui.
Alors dis-le nous Stone parce que je trouvais ça marrant et anecdotique mais très drôle.
Mon fils Baptiste l'aîné.
C'est pas familial c'est juste son fils quoi.
Mon fils Baptiste était à l'école au lycée avec Julie Gaillet. Ils ont le même âge, ils sont de la même année. Ils sont sortis ensemble, faut le dire vite, puis ils étaient très très gamins, ils avaient 14-15 ans, hein, donc c'était
des
amourettes. C'était une petite amourette.
Ouais. Ah ouais. Un soir, Baptiste me dit, Mario, il faut que tu m'emmènes, j'ai rendez-vous avec Julie Gaillet.
Attends, raconte pas les détails.
J'ai dit, d'accord, on y va.
Mais c'était pourquoi pour amener les croissants
Non. Et il me dit, fais-moi la photo.
Pourquoi?
Il me dit, parce que c'est ce soir que ça passe. C'est décidé avec Julie, c'est ce soir.
Ah ouais, carrément. Toi, t'étais le chauffeur.
Traverser tout Paris pour le déposer à 21h, un truc comme ça. Et là, il m'a fait poireauter 1h30 dans la bagnole. Parce que l'autre, évidemment,
ça s'est pas fait.
On est tous rentrés à la maison.
Donc Baptiste était précurseur par rapport à François.
Ils étaient très, très jeunes, hein, tous les deux. Et
ils
c'est vrai
15
qu'on
ans.
On a eu des très bons rapports avec Julie. C'était une femme, c'est toujours d'ailleurs une femme très, très bien, très intelligente, très, très sympathique, quoi.
Bah, elle est à la maison, alors.
Elle a un genre de total.
Elle est à la maison.
Ah oui, on s'est vu beaucoup. Cette époque-là, parce que évidemment, en train de
peut-être sa belle-mère, quoi, on peut bien.
Oui, en quelque sorte, mais ils étaient trop jeunes.
Non, mais c'est une nana super. C'est une nana qui est vachement belle,
puis dynamique,
très brillante, intelligente,
businesswoman,
qui est une comédienne géniale. Vraiment, elle a, en fait, dans toute la famille Gaillet, Ils sont tous bénis du bon Dieu quand même.
On connaissait les frères et tout. Donc c'était drôle que par la suite on apprenne que ça y est, en plus c'est la seule qu'il a épousée. Elle est devenue
Madame Hollande. C'est vrai, elle est devenue Madame Hollande.
Une fois mais le père Hollande, il se laisse aller avec l'âge.
Donc, et pour conclure, tu changerais quoi si tu prenais une machine à voyager dans le temps là? Si tu devais changer quelque chose, tu changerais
question.
Quoi?
Bah non, mais c'est trop.
Il y a la DeLorean garée à côté.
Ouais, voilà, on a la DeLorean.
La DeLorean, oui. On est très branché Retour vers le futur, attention. On connaît tout par cœur. Ouais.
Je pense pas que t'aies beaucoup de regrets, en fait.
Non, j'ai pas de regrets. Non, aucun.
C'est beau, ça, parce que.
Oui, bah oui, ça, c'est bien de pas avoir.
C'est une chance, quelque part.
C'est une chance. Je crois que j'ai été relativement gâtée, oui.
Très bien, bah merci pour ce tac au tac. On va conclure avec tes projets.
Alors, les projets, bah, il n'y a pas de projet. Ça continue sur la lancée, c'est-à-dire qu'on continue. Nous, maintenant, l'avantage, c'est qu'on recherche rien. On n'est pas là en train d'appeler dans un gala, un truc. Les gens viennent à nous, tant mieux. On a l'avantage de connaître beaucoup de tourneurs, de producteurs et tout ça. Quand il y a besoin, s'il faut, on y va.
Aujourd'hui, voilà. T'as combien de dates à peu près par an?
Oh, bah, ça dépend des fois, hein. C'est très, bah, il y a eu les deux années de Covid où ça
oui,
a été
là,
une
c'est rien, mais aujourd'hui, oh, t'es
aujourd'hui, on
que t'as pas
on
envie de
quand même pas mal.
Une cinquantaine de dates.
Oui,
cinquantaine
et puis on fait beaucoup aussi de salons du livre, des choses comme ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, je suis très lectrice.
D'ailleurs, t'es très lectrice. Moi aussi, si tu le permets, Stone. Et il y a un livre super chouette sur toi, c'est complètement Stone. Écoute, j'en ai eu besoin pour préparer l'interview. Et le livre, on apprend tout sur ta vie. Il est très très bien écrit et je vous le conseille. Voilà.
Il y a un deuxième livre qui est sorti au printemps dernier. Qui s'appelle Ma vie dans tous les sens. J'aurais dû te l'amener. J'y ai même pas pensé.
Ça sera pour c'est la suite un petit peu.
D'ailleurs, je fais un petit coup de pub là. Il y a une rencontre littéraire au théâtre des Déchargeurs à Paris, dans les Halles.
Je vois aussi.
Voilà. C'est donc la semaine prochaine. C'est le 15. Donc le 15, ça doit être mercredi prochain. À midi et demi, on fait avec d'autres auteurs, bien sûr, on fait un petit coup de mini salon du livre, les rencontres littéraires aux Déchargeurs.
Et ce livre, du coup, traitera de la, c'est un peu la suite alors du coup.
C'est un peu la suite, oui, et là, je suis en train d'en écrire un sur tous les animaux que j'ai possédés parce que, pareil, rencontre une dame formidable, Martine, qui crée un salon animalier. Donc, ça va être uniquement vraiment sur les animaux, tous les auteurs qui ont écrit des livres sur les animaux, aussi des bandes dessinées, des choses comme ça. C'est à Périgueux que ça se passera au mois d'octobre prochain. Donc je me suis dit, faut que je participe. Donc comme j'ai eu la chance d'avoir plein d'animaux dans ma vie et qu'il y a plein d'anecdotes se rapportant à ces animaux, ce qui est normal, j'écris je suis même en train de le taper parce que il est pratiquement fini.
Voilà. Très bien, donc plein de projets, vous voyez.
Il y a du pain sur la planche.
On a beau être en retraite, on a plein de projets et c'est beau parce que c'est nécessaire pour avancer. Voilà, bah merci à toutes et à tous. On se retrouve prochainement avec un ou une nouvelle invitée. Merci.
Au revoir. Ciao.
À bientôt.
Dynamique Radio. Dynamique. Premier sur le web.